Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Anachronisme, c'est comme cela que Annegret Kramp-Karrenbauer, dite AKK, parle de Strasbourg comme siège officiel du Parlement européen. Ses membres sont réunis à partir d'aujourd'hui pour leur session plénière mensuelle et ils seront bientôt renouvelés. AKK est la nouvelle patronne de la CDU, le parti chrétien démocrate allemand, l'un des plus puissants d'Europe. Et bien qu'inscrite dans les traités, la question du siège du Parlement est un véritable serpent de mer entre partisans de Strasbourg, attachés au symbole, et de Bruxelles, partisan d'une certaine simplification. Va-t-on vers une nouvelle bataille pour le siège du Parlement européen ? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Yves Bertoncini, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes consultant en affaires européennes, président du Mouvement Européen France, co-auteur avec Thierry Chopin de Politique Européenne, État, Pouvoir et Citoyens de l'Union Européenne aux éditions Sciences Po Dalloz 2010. Et Sylvain Kahn, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe et historien, professeur à Sciences Po, co-auteur avec Jacques Lévy de Le Pays des Européens. Ça paraît le 15 avril aux éditions Odile Jacob et auteur également de Histoire de la construction de l'Europe depuis 1945 au PUF en 2018. Depuis quand Strasbourg accueille-t-elle l'Assemblée européenne? Et je m'adresse à l'historien que vous êtes, Sylvain Kahn.
Eh ben en fait, depuis les tout débuts de ce qu'il faut bien appeler la construction européenne, c'est-à-dire du Conseil de l'Europe. Donc, on est à la fin des années 40, au début des années 50, et Strasbourg est choisi comme siège, disons, des institutions européennes en train d'être construites, parce que c'est la ville pont, la ville frontière, mais une frontière non plus qui sépare, mais au contraire une frontière qui réunit entre la France et l'Allemagne, est considérée comme le cœur de l'Europe. Donc, c'est une vieille histoire et dans les traités donc de la construction européenne, il est bien précisé que le siège de l'Assemblée parlementaire, c'était son premier nom, puis du Parlement européen, c'est Strasbourg. Et donc, quand AKK, à laquelle vous avez fait référence, dit qu'il faudrait réunir en un seul lieu, en son siège de Bruxelles, le Parlement européen, elle commet, volontairement ou non, je n'en sais rien, une erreur historique, puisque officiellement et juridiquement, le siège, c'est Strasbourg.
Et depuis quand est-ce que c'est contesté, Yves Bertoncini?
Alors, au-delà de Strasbourg, c'est vrai que le siège des institutions européennes, Luxembourg aussi, Bruxelles, ont été fixés dans cet espace que se sont disputés pendant presque 1000 ans la France et l'Allemagne, c'est-à-dire la Lotharingie.
À Luxembourg, c'est le secrétariat du Parlement européen.
Oui, mais il y a aussi choses, la Cour de justice, il y a aussi la Banque européenne d'investissement, donc il y a plusieurs institutions. Et puis évidemment, il y en a aussi à Bruxelles. Vous voyez, cette bande de terre, et donc c'est là le symbole, en effet, qui a servi de champ de bataille, parce qu'il y a l'Alsace-Moselle rattachée à l'Allemagne, voilà, il y a eu la Sarre, etc., etc., dans cette Europe des six, qui était en effet agglutinée, je dirais, les six pays autour de cette bande de terre qui était un champ de bataille, eh bien, on a décidé d'en faire des lieux, je dis bien, au-delà de Strasbourg, des lieux de réconciliation, donc Luxembourg, Bruxelles et Strasbourg. Simplement, l'Union européenne, ensuite, s'est approfondie, je dirais, y compris géographiquement. On dit qu'elle s'est donc élargie, donc avec désormais 28 membres, peut-être bientôt 27. Mais en tout cas, c'est vrai que le centre de gravité n'est plus tout à fait le moteur franco-allemand, ou en tout cas cette Europe des six. Donc, à partir de ce moment-là, à partir de l'élargissement, on a vu des grands élargissements, on a vu monter, notamment sous l'influence des pays nordiques, puis après des pays d'Europe centrale et orientale, qui ne font pas partie de cette histoire-là, quoique ça pourrait se discuter pour les pays d'Europe centrale et orientale, la réunification de l'Europe au-delà de la réunification de l'Allemagne, bon, bref. Et donc, on fait monter la pression sur Strasbourg. Et puis, il y a évidemment des signes d'époque, parce qu'on voit bien que Strasbourg est la victime collatérale des dénonciations du coût de la vie politique, en général, et ça, on l'a au niveau, j'allais dire, de tous les États membres, et puis même également du coût de l'Europe, parce que dans certains pays qui sont contributeurs nets, où on envoie plus d'argent qu'on en reçoit, eh bien, on pointe tous les coûts, y compris celui lié à la noria qu'il faut organiser entre Strasbourg, où il y a les sessions plénières du Parlement européen, et puis Bruxelles, où se réunissent les commissions parlementaires.
Le principal argument des pro-Bruxelles, l'argument massue, si j'ose dire, c'est l'argument logistique, pratique, et l'argument du coût, Sylvain Kahn.
Mais il s'entend.
Absolument,
je crois que ce qui est très important dans cette affaire, c'est-à-dire, faut-il ou non réunifier sur un seul lieu le Parlement, c'est qu'il faut bien entendre les arguments de part et d'autre. C'est à mon avis, Julie, c'est très important parce que se draper, comme vient de le faire le maire de Strasbourg, Roland Ries, dans une position un peu, comment dire, un peu mécanique, un peu automatique, en appelant, comme d'habitude, à des arguments historiques, ceux qu'on a juste évoqués qu'on a rappelé. C'est bien entendu, ces arguments sont très importants, mais ça ne peut plus être les seuls, notamment pour les raisons que vous indiquez, parce que effectivement, bon ben voilà, on va à Strasbourg uniquement 12 semaines par an, donc c'est vrai que, alors c'est vrai que c'est un bâtiment magnifique, qui a coûté très très cher, donc il y a aussi l'idée que, vous voyez, les arguments financiers s'entendent dans les deux sens, c'est-à-dire, il faut aussi rentabiliser un très très beau bâtiment, qui est aussi un bâtiment symbolique, esthétique, et à cet égard qui est beaucoup plus puissant que le siège, enfin que le bâtiment du Parlement européen à Bruxelles. Donc c'est en vérité c'est une histoire très compliquée parce que c'est vrai que finalement il y a des arguments valables des deux côtés. Il y a des arguments valables à la fois pour dire il faut conserver deux hémicycles et deux bâtiments et en même temps il y a des arguments valables pour dire bah effectivement ça vaudrait le coup de rationaliser parce que ça épuise les eurodéputés, ça épuise tous les collaborateurs, ça coûte beaucoup d'argent, il y a très peu de lignes directes pour aller de Strasbourg à toute l'Europe alors que Bruxelles est reliée avec toute l'Europe très très facilement.
Le Parlement de Bruxelles, pour reprendre cet argument financier, Yves Bertoncini, le Parlement de Bruxelles, je parle du bâtiment, celui qu'on appelle le caprice des dieux, puisqu'il a la forme d'une boîte de fromage, et il coûte également très cher, il doit être rénové prochainement pour un montant très élevé, ça peut être aussi un argument à prendre en compte.
Oui, bah que mentionnent d'ailleurs les promoteurs de Strasbourg, mais au-delà de l'argument qui a déjà été rappelé, qu'il faut l'unanimité pour déplacer le siège de Strasbourg à Bruxelles, mais là il y a comme un verrou juridique assez puissant du côté français, mais au-delà de ça, il y a des enjeux pratiques. Sylvain Kahn vient de mentionner les connexions vis-à-vis de Strasbourg, les aéroports, les liaisons ferroviaires, tout ça a été quand même largement amélioré ces dernières années sous l'impulsion des autorités locales et des autorités nationales françaises. Il y a des trains spéciaux, il y a des efforts qui sont faits. Bon, mais au-delà de tout cela, on n'a pas parlé non plus du coût carbone si on veut être dans la colonne des débits. Mais au-delà de tout ça, il faut en rester à la dimension symbolique. Et pas seulement la dimension franco-allemande dont j'ai déjà dit que bien sûr elle pouvait être un peu relativisée dans une Europe à 28. Il y a au moins deux autres dimensions symboliques. Il y a la dimension de l'Europe des citoyens. Parce que Strasbourg, c'est aussi le siège du Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme. C'est là aussi qu'a été lancée l'idée des accords Schengen en réalité, puisqu'il y avait une interdépendance entre les deux pays, donc ça a donné les accords de Saarbrück, puis les accords Schengen, cette idée qu'on peut faire un eurodistrict aussi, qu'il y a du transfrontière, et donc il y a ce symbole de l'Europe des citoyens qu'incarne mieux Strasbourg, et je le dis, que Bruxelles. Voilà, ça c'est une chose. Et il y a un deuxième élément symbolique, à mon avis, qui est encore plus important. C'est que l'Europe, c'est l'unité dans la diversité. C'est, pardon d'utiliser ce mot, mais le polycentrisme. C'est-à-dire, c'est pas tous les pouvoirs au même endroit. C'est pas tous les pouvoirs aux mains d'une même institution, d'un même parti ou d'une seule personne. Et je dirais que les Allemands devraient être les premiers à comprendre cet argument-là. Parce que c'est pas seulement, d'ailleurs, Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg, c'est aussi la Banque centrale qui est à Francfort, et c'est aussi plein d'agences qu'on disperse partout dans l'Union européenne. Et si on regarde comment est organisée l'Allemagne fédérale, où justement on a aussi voulu empêcher la concentration des pouvoirs, ben qu'est-ce qu'on a fait? On a mis la Banque centrale à Francfort, on a mis le tribunal constitutionnel à Karlsruhe, on a mis le gouvernement à Berlin, donc on regroupe tout à Berlin parce que ça fera des économies.
Oui, c'est un petit peu paradoxal, Sylvain Kahn, de se dire que ça va peut-être à l'encontre de la décentralisation qui fait partie de la volonté affichée de la CDU de AKK.
Bien sûr, mais alors là justement, parlons de la CDU, donc l'Union chrétienne démocrate, dont maintenant AKK est la leader, le parti qui a été très longtemps le parti dirigé par Madame Merkel, qui est toujours chancelière. Alors, moi, il me semble que quand AKK prend cette position, rappelons-le, en réponse, c'est un des éléments de la réponse à la grande lettre que Emmanuel Macron a adressée à 500 millions d'Européens à travers 28 journaux. En fait, AKK, elle s'est lancée dans la campagne électorale. Il y a clairement je pense, enfin, hein, c'est une hypothèse, mais là, il y a clairement, disons, un positionnement de la CDU. D'abord, AKK veut se démarquer de Madame Merkel. Hein. Elle dit, bah voilà, moi, le jour où, si jamais vous me portez au pouvoir, si jamais je succède à Madame Merkel, vous voyez que je serai, à la différence de Madame Merkel, beaucoup moins dans le compromis. Je mettrai beaucoup plus les pieds dans le plat. Bon, deuxièmement, c'est quand même une manière de dire face à Emmanuel Macron, qui quand même. Faut quand même le dire. Tous les six mois, Emmanuel Macron fait un grand discours dans lequel
pour
il
refonder l'Europe, hein.
Pour refonder l'Europe avec une trentaine de propositions. Il en reprend un certain nombre d'un discours à l'autre. À chaque fois, il en rajoute. C'est un peu l'arbre de Noël, hein, même. En gros, AKK dit, bah, écoutez, monsieur Macron, calmez-vous. Nous aussi, on peut faire des tas de propositions qui clignotent et qui affolent tous les compteurs GGR. Bon. Troisièmement, on est dans un contexte en Allemagne où la CDU est maintenant concurrencée sur sa droite par l'AfD, Alternative für Deutschland, qui est un parti eurosceptique est très critique envers l'euro. Donc, c'est une manière qu'on peut juger habile ou qu'on peut juger au contraire démagogique pour AKK de dire, vous voyez, je prends en compte un certain nombre de préoccupations très terre à terre sur les économies budgétaires, sur le fait que le couple franco-allemand n'est pas forcément la pierre angulaire, sur le fait que c'est pas parce que les Français disent quelque chose qu'il faut absolument dire oui à tout. Et donc, enfin, quatrièmement, AKK a dit, bah écoutez, monsieur Macron, il est pas seulement le président de la République française, il est aussi le fondateur et le leader de fait d'un grand parti nouveau français qui s'appelle La République En Marche. Moi, je suis président de la CDU et par conséquent, je sais très bien que la CDU et La République En Marche, c'est-à-dire le PPE, le Parti Populaire Européen, le grand parti de droite au Parlement, et La République En Marche et la LDE, les libéraux, on n'est pas dans le même camp et on va s'opposer, et je le montre tout de suite.
Oui, la sortie de AKK et de la CDU, AKK Annegret Kramp-Karrenbauer, je le répète pour
nos
auditeurs, absolument. La sortie de AKK et de la CDU doit-elle être interprétée, selon vous, et est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Yves Bertoncini, dans le cadre de la campagne pour les européennes? Il y a beaucoup d'arrière-pensée politique là derrière.
Oui, c'est une entrée en campagne, c'est un coup de semonce, je dirais, de sa part, sur un sujet symbolique, le siège de Strasbourg. On peut d'ailleurs rapprocher cela du coup de semonce qu'elle adresse également au siège, cette fois-ci français, permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est-à-dire que ce sont deux provocations de sa part, avec une chance que ça donne des résultats extrêmement faibles, pour ne pas dire inexistantes. Mais c'est pour ça.
Bien qu'elle n'ait pas dit qu'elle voulait la disparition du siège français. Elle a dit qu'il faudrait un siège pour l'UE.
Oui, enfin, c'est pas tout à fait comme ça qu'on peut l'interpréter. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle sait, quand elle dit ces deux choses-là, ce qu'elle envoie, ces deux missiles-là, ce qu'elle fait. Et ça, c'est dans le cadre d'une confrontation, d'abord partisane, en effet, dans le cadre des élections européennes. Je crois que, oui, bien sûr, Emmanuel Macron produit des idées. En faisant cette tribune, il a voulu d'ailleurs passer au-dessus des chefs d'État et de gouvernement, les appareils partisans, pour s'adresser aux citoyens européens.
Ça a déplu.
Moi, personnellement, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, mais c'est vrai que ça, parce que ça crée une forme de débat public citoyen. Oui, moi, j'ai des lettons qui m'ont dit, c'est pas souvent qu'on s'adresse à moi en letton dans ma langue, dans un journal, voilà, ou d'autres. Bon. Simplement, c'est vrai que, du coup, de ce point de vue-là, Madame AKK se comporte en chef de parti, et elle répond assez vivement, il y a des idées dans sa tribune, mais ces deux sujets-là sont vraiment des coups de semonce. Et puis au-delà, malheureusement, je dirais, parce que ça passera, les élections vont se tenir, de toute façon, à la fin des fins, il faudra bien faire une coalition des bonnes volontés, puisqu'aucun parti ne gouverne seul le Parlement européen.
Il faut une coalition.
Donc le Parti
fois,
populaire européen sera certainement en tête, ensuite il y aura les sociodémocrates et les libéraux-démocrates, donc ils vont s'arranger. Mais je pense que sur la base des rapports de force déterminés par les électeurs. Mais il y aura des compromis. Et je pense que la suppression du siège du Parlement européen à Strasbourg ne figurera pas dans le contrat de coalition. Ce n'est pas un scoop. Mais en revanche, ce qui m'ennuie, c'est l'autre élément symptomatique d'un malaise, non pas lié à une confrontation transpartisane, mais franco-allemand. Voilà. Là, il y a quand même un vrai malaise franco-allemand. Je crois que ça va au-delà. Parce que c'est quand même ce symbole de la réconciliation franco-allemande et le fait que Madame Kramp-Karrenbauer, qui était élu de la Sarre, hein.
Oui.
C'est quand même, normalement, une région assez proche. Je connais bien Strasbourg.
Carrément francophone à une certaine époque.
Absolument. Se laisse aller à cela, ça dit beaucoup, non pas seulement de sa stratégie partisane, mais de l'ambiance, effectivement, qu'il y a en ce moment en Allemagne, sinon vis-à-vis de la France, en tout cas vis-à-vis de la stratégie de chamboule tout d'Emmanuel Macron en Europe, et qui, de ce point de vue-là, montre un peu ses limites, à mon avis, parce qu'il faudra bien quand même convaincre le grand parti qui est la CDU-CSU, qui sera le parti le plus puissant du groupe le plus puissant à Strasbourg, justement, à Strasbourg, au Parlement européen, de marcher avec les autres pour construire l'Europe. On en a besoin.
Sylvain Kahn, je vous ai vu faire la moue sur cette analyse de les difficultés franco-allemandes.
Comment dire, quasiment en même temps, à une semaine près, en tous les cas, puisqu'on parle aujourd'hui de la polémique nourrie par AKK, on en parle aujourd'hui, et aujourd'hui, il y a la première réunion du nouveau Parlement franco-allemand.
Oui, c'était aujourd'hui, effectivement.
Voilà, c'est-à-dire une nouvelle institution.
100 parlementaires, 50 de chaque pays.
Voilà, bon, donc, je crois que, justement, si on regarde un peu les choses telles qu'elles se passent depuis une quarantaine d'années, disons que il y a le fameux couple franco-allemand, qui d'ailleurs ne s'appelle couple qu'en français. Hein. En Allemagne, on ne dit pas le couple franco-allemand, on dit éventuellement le tandem.
Ou le moteur, c'est plus prosaïque, voilà, c'est moins romantique.
Ou le moteur, c'est plus automobile.
Voilà. en tous les cas, c'est très intéressant parce que au-delà du mythe. Dans la réalité, c'est fait précisément de bras de fer, de petits coups de canif, de croche-pied, de très très grandes réussites. Mais je veux dire, ça fait partie de la vie politique du couple franco-allemand. Donc voilà, le fait que quasiment la même semaine, hein, il y a à la fois la réunion, la première réunion du Parlement franco-allemand et la sortie d'AKK, qui peut être interprétée comme un signe un peu polémique, voire agressif. Finalement, j'ai envie de dire, d'un certain point de vue, rien de nouveau sous le soleil. C'est une relation. C'est-à-dire, il faut bien voir que le couple franco-allemand, c'est la chose suivante. C'est très très rare que, au départ, dans le cadre européen, les Français et les Allemands aient les mêmes objectifs et, en tout cas, les mêmes idées sur la manière d'y arriver. Par contre, ce qui ne change pas, ou à mon avis pas trop, depuis 50 ou 70 ans maintenant, c'est que les Allemands et les Français, alors qu'ils savent qu'ils ont des positions différentes, sont d'accord sur le fait qu'il faut, en bout de course, finir par arriver à un compromis pour faire avancer les choses. Et dans la fameuse lettre de AKK qui répondait à celle d'Emmanuel Macron, il y a quand même des avancées sous forme de points d'accord très très importants sur l'Europe de la défense, par exemple.
Il y a quelque chose que je voudrais quand même souligner, c'est que depuis cette sortie de AKK, Emmanuel Macron n'a pas répondu, il ne dit rien, il n'a pas dit non, Yves Bertoncini. C'est quand même étrange.
Oui, je crois qu'il est aussi pas mal occupé sur d'autres fronts, à la fois internationaux et domestiques. Peut-être qu'il prendra la parole. Je pense que Nathalie Loiseau, la ministre des Affaires européennes, l'avait fait assez rapidement au Sénat.
Oui, mais pas le président.
Oui, mais en même temps, le président de la République n'a pas à répondre à un chef de parti.
Voilà, il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'en même temps, je pourrais vous retourner, effectivement, comme le dit Sylvain Kahn, Madame Merkel n'a rien dit, donc il n'y a pas de raison qu'Emmanuel Macron... Voilà. Mais bon, surtout qu'Emmanuel Macron s'est trop laissé entraîner dans des polémiques parfois avec Matteo Salvini, qui n'était pas à son niveau. Donc maintenant, il a appris à répondre aux gens qui s'expriment à son niveau, et tant mieux. Maintenant, ce que ça veut quand même dire, c'est qu'en effet, la successeur d'Angela Merkel marque son territoire. Je pense pas que ça dégénérera, ça sera la drôle de guerre du siège. La bataille du siège aura lieu, mais il y aura pas de transfert du siège de Strasbourg, et tant mieux. Simplement, c'est une façon de marquer au départ de ce qui va être un rapport de force, mais débouchant bien sûr sur un compromis au niveau du Parlement européen et puis plus largement au niveau de l'Union européenne. C'est une manière de montrer un peu ses muscles et de dire à Emmanuel Macron, de la part de la CDU-CSU, voilà, écoute, on t'a vu, mais maintenant calme-toi. On a déjà eu, malheureusement, je dirais, ce type de réaction défensive au moment, souvenez-vous, de l'adoption du principe de liste transnationale au Parlement européen. Oui. C'était une bonne idée. Et puis Emmanuel Macron l'a faite sienne. Il l'a poussée de manière d'ailleurs un peu excessive en disant qu'il fallait que la moitié des députés européens soient élus sur une liste transnationale. Donc c'est apparu comme une manœuvre de déstabilisation des positions établi, et notamment de la domination du PPE, et le PPE a torpillé cette initiative. Là, il y a eu vraiment quelque chose de concret, et malheureusement, nous n'avons pas de députés européens transnationaux. Sur le siège de Strasbourg, ça n'ira pas nettement plus loin, à mon sens, et encore une fois, je m'en félicite.
Donc, on vous entend bien, Yves Bertoncini, un siège, peut-être, pourquoi pas unique, mais surtout, à Strasbourg, Sylvain Kahn, en quelques secondes, un siège unique, où ça ?
À Strasbourg.
Merci beaucoup Sylvain Kahn, merci également Yves Bertoncini d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Déborah Lepage à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui Hélène Avril. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio rubrique magazine. Participez au débat du jour sur les réseaux sociaux. Le prochain débat c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.